PMERadio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants des petites et moyennes entreprises, animée par Alain Marty et Pauline Riglet, en partenariat avec GFIP et Inextinso.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de PME Radio. Vous êtes plus de 28 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et puis bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte xpmeradio-tv. À mes côtés, pour co-animer l'émission du jour, Guillaume Dosinel, dirigeant associé de GFIP. Bonjour Guillaume.
Bonjour Pauline.
Ainsi que Johan Melloul, directeur associé d'Inextenso Finance. Bonjour Johan.
Bonjour Pauline.
Aujourd'hui, nous recevons Christophe Amouroux, président de 12 Consulting. Bonjour Christophe.
Bonjour Pauline.
Alors Christophe, vous êtes né à Valence, dans la Drôme. Vous êtes diplômé de l'ESCP Business School. Vous avez toujours travaillé dans le conseil. Hein, vous êtes un pur consultant, hein, c'est vous qui le dites. Après un début de carrière chez KPMG, vous intégrez CSC et c'est là que vous devenez intra-entrepreneur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, effectivement, moi, j'ai démarré chez les Big Six à l'époque pour les gens de ma génération, donc KPMG Pitmarwick, qui a été, à un moment donné, qui s'est rapproché de CSC, donc une grosse boîte américaine. Et nous avons, malgré tout, gardé une culture assez entrepreneuriale. Ce qui fait que moi, lorsque j'étais jeune partenaire, j'ai eu la possibilité de créer alors, ce qu'on appelle une practice ou une BU, c'est comme ça que ça s'appelle dans les boîtes de conseil. Et effectivement, j'avais un patron qui ne comprenait pas forcément toujours très bien ce que je faisais. Il trouvait que c'était assez innovant, ça lui plaisait bien. Et il me disait, bah, tiens, il est plutôt bon consultant. A priori, il y a des équipes qui ont envie de travailler avec lui. Il a quelques clients. Et donc voilà, donc, c'est comme ça que moi, j'ai créé ma practice. Et effectivement, lorsque j'ai démarré, je crois qu'on était 6. Et lorsque j'ai quitté justement CSC pour créer Toile, on était une centaine. Donc, ça a été mon premier projet entrepreneurial, intra-entrepreneurial.
Mmh. Non. En tout cas, l'entrepreneuriat, vous l'avez dans le sang aussi. En 2014, c'est là, vous l'avez dit, que vous créez 12 Consulting. Aujourd'hui, 12 Consulting, c'est un cabinet de conseil indépendant, spécialiste de l'expérience client et collaborateur pour les secteurs de la banque, de l'assurance, de la santé, mais aussi des fondations et des associations. On y reviendra. Mais un mot peut-être sur la genèse, finalement, et les débuts de 12 Consulting. Pourquoi vous avez eu cette idée-là de vous lancer aussi?
Toile, en fait, c'était l'idée de pouvoir prolonger un peu ce que j'avais commencé chez CSC, puisqu'en fait, moi, j'ai vécu très heureux en fait en tant qu'intra-entrepreneur. Et puis, comme ça arrive parfois dans des sociétés américaines, il y a un changement de gouvernance au niveau des États-Unis, avec voilà un patron qui venait d'IBM et qui, du jour au lendemain, a voulu que tout le monde travaille à peu près de la même manière. Donc, la fameuse matrice. Et c'est vrai que moi, j'avais pris beaucoup, beaucoup de liberté pour pouvoir rentrer un peu dans cette matrice. Donc, j'ai été un des premiers, finalement, dirigeants sur l'activité de conseil sur la région à décider, en fait, de partir parce que c'était plus possible. On me demandait de faire des business plans le matin, du reporting l'après-midi. C'était pas trop ma façon de voir les choses. Et comme j'avais mes équipes qui étaient malheureuses, moi, je l'étais, donc voilà, on n'était pas très heureux dans ce contexte-là, que j'étais quand même entrepreneur et je pense que en filigrane, j'avais toujours l'idée de créer ma boîte. Bon, j'ai mon ancien patron qui s'était fait virer un peu avant et qui m'a dit, écoute, Christophe, tu l'as fait chez CSC, tu peux le faire ailleurs. Donc, il m'a poussé à le faire, mes équipes un peu. Et voilà, c'est comme ça que 12 est né et qui est un projet collectif, puisqu'en fait, 12 Consulting, puisqu'on était 12 au départ. Mmh. Alors, je portais le projet, mais on avait en tête justement d'essayer de casser un peu les codes aussi du conseil, qui est un modèle quand même assez élitiste, un peu individualiste, hein, puisque l'idée, c'est de grandir un peu plus vite que les autres. Et je me suis dit, bah, tiens, on a fait un truc sympa, finalement, chez CSC, très collectif. Donc, essayons de voir si on peut faire la même chose de manière entrepreneuriale cette fois-ci. C'est comme ça que 12 est né.
Alors, 12 Consulting, en quelques chiffres, hein, vous avez un chiffre d'affaires d'environ 13,5 millions d'euros. Moyen d'âge assez jeune, 30 ans, avec quelques seniors. Turnover assez faible, hein, 12%. C'est assez faible, hein, pour le milieu du conseil. Et donc, vous le disiez à l'instant, maintenant, vous êtes près de 100 salariés. Vous réorganisez finalement. Est-ce que, alors que quand vous étiez peu, c'était un peu le profil, votre caractéristique, aujourd'hui, vous vous réorganisez puisque vous êtes 100. Est-ce que c'est la rançon de la gloire ou pas, d'ailleurs?
Alors en fait, oui, on est en train de simplement de s'adapter à notre taille. Et c'est vrai que... Alors, on a pris un peu de retard. Je ne sais pas si c'est vraiment du retard, mais on a beaucoup vécu jusqu'à présent sur une croissance d'à peu près 15-20% par an, une croissance plutôt rentable, voire même très rentable. Donc, à partir du moment où vous faites de la croissance rentable, bah, vous ne pouvez pas non plus 50 questions à la seconde. Hein. Moi, mon idée, c'était de continuer à développer, à manager, à donner un cap et une vision suffisamment claire pour que les gens comprennent à peu près ce qu'ils avaient à faire, sans que je leur explique que le matin à quelle heure fallait qu'ils arrivent et mettent en place des organisations et des process. Et donc, ça s'est très bien passé. Ça se passe encore très bien dans ce sens-là, mais à un moment donné, à 100, la maison 12, elle devient un peu grande, donc il faut qu'on regarde dans quelle mesure on ne peut pas, à l'intérieur de ça, créer peut-être des maisons un peu plus petites et que finalement, 12 devienne un village avec des maisons plutôt qu'une trop grande maison. On a parfois un peu de mal à s'y retrouver, à s'organiser, à trouver notre go-to-market et redonner justement cet esprit entrepreneurial. Ce que j'ai vécu finalement, moi, 15 ans avant chez CSC où j'ai créé ma practice, l'idée, c'est de voir dans quelle mesure on peut essayer de faire un peu la même chose pour donner aussi de l'espace, de la conquête, et puis responsabiliser, faire en sorte que le Christophe Amouroux d'il y a 20 ans chez CSC, ce soit un autre, un Eric, un Arnaud, une Julie, voilà.
S'adapter. Guillaume, une question pour notre invité.
Votre spécialité, c'est le déploiement de solutions de relations clients. Pourquoi avoir limité votre expertise à 3 secteurs, l'assurance, la banque et la santé ?
En fait, ma conviction, moi, depuis que je fais ce métier de consultant, c'est que pour que la technologie soit utile, il faut qu'elle soit alignée avec les enjeux métiers de mon client. Et donc, on a beau dire, oui, mais finalement, la relation client, c'est pareil, quel que soit le client. En fait, non, pas tout à fait. Et en plus, il y a un certain nombre de secteurs, et ceux-ci en font parler, qui ont des contraintes. Et si vous n'êtes pas un peu au courant des contraintes et du cadre et de l'environnement, en fait, vous avez un peu du mal. Donc, pour moi, c'était important, aussi pour me positionner vis-à-vis des autres, d'avoir justement cette spécialité sectorielle. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui peut-être d'adresser en fait ce sujet de la gestion de la relation client, parce que nous sommes intégrateurs, hein, nous sommes des faiseurs, nous intégrons des solutions comme Salesforce, qui fait partie des grandes solutions du marché sur le CRM, Microsoft. Mais en fait, je pense qu'on le fait de manière un peu différente, beaucoup plus alignée avec les enjeux métiers de nos clients, parce qu'on les connaît bien. Et donc, c'est cette raison pour laquelle on a choisi cette approche sectorielle.
Votre croissance est notamment liée à votre capacité de recrutement. Comment faites-vous pour recruter des profils qualifiés et comment faites-vous pour limiter ce turnover ?
Alors effectivement, c'est un des sujets de fond, hein, et dans notre singularité, notre proposition de valeur, c'est notre capacité justement à garder les gens. Vous parliez, Pauline, d'un turnover de 12%. Effectivement, c'était le turnover en 2022, là où le marché du conseil était plutôt autour de 30. Voilà, je suis au Syntec, qui est notre syndicat, et en fait, c'était le cas. Donc je pense qu'en fait, c'est l'expérience collaborateur qui fait, un, que les gens restent, et deux, qui attire les autres. Et en fait, nous, on a un taux de cooptation énorme, alors qu'on n'a jamais donné un euro aux gens pour justement qu'ils cooptent les autres. Voilà. Bon, c'est pour ça que ça m'a fait un peu rire. Je me suis même permis de le dire au Syntec face à mes grands confrères, les Big Four et Anko, leur expliquer ça, et que c'était parfois un peu ridicule. Et si j'avais que de l'argent à proposer aux gens pour venir chasser sur mes terres, c'était peut-être pas forcément... c'était un peu court. Bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, délivrer sa promesse vis-à-vis de ses collaborateurs, alors de ses clients évidemment, je pense que c'est peut-être ça le gage, en fait. C'est de faire en sorte de ne pas raconter n'importe quoi quand on fait passer des entretiens de recrutement, de délivrer après ce qu'on a promis aux gens lorsqu'ils sont rentrés chez vous. Et je dirais assez naturellement, si vous communiquez un peu et que vous faites bien votre boulot vis-à-vis de vos clients, nous, on n'a pas de problème pour recruter. On n'en avait pas en 2022. Les gens venaient assez naturellement, puis on gardait ceux qui étaient chez nous.
Vous êtes sensible à l'engagement environnemental et social. Vous avez créé le collectif Mieux. Pouvez-vous nous expliquer son objectif et le lien avec 12 et ses collaborateurs ?
Donc oui, je suis sensible sur le sujet, mais comme tout le monde, je suis pas le grand bienfaiteur de l'humanité. J'ai été moi-même éduqué aussi par mes jeunes. Je pense que les gens de ma génération, j'ai 53 ans. Moi, quand j'étais gamin, je balançais des bouteilles d'eau à la mer. J'étais pas un criminel, tout simplement, parce que c'était pas un gros sujet. La RSE, on en parle beaucoup depuis 2-3 ans. Donc j'ai été éduqué. Après, moi, j'avais ma sensibilité personnelle plus sur les aspects sociaux. Et puis, en fait, là où on était de manière organique... chez Twelve, il y a toujours eu des petits projets, Green Twelve, enfin des projets un peu internes. On s'est dit, ben, finalement, essayons de voir si on peut pas intégrer la RSE, finalement, dans notre business. Donc, ça a été une première réflexion. Et puis, on a mis en place un certain nombre de choses sur les trois grands piliers de la RSE, notamment mis en place de l'actionnariat salarié, en fait, qui s'inscrit dans le partage de la valeur et sur lequel je recommande vivement les patrons de PME à le mettre en place, même si c'est un tout petit peu compliqué. Et puis, à un moment donné, on a eu l'occasion, avec d'autres patrons de PME, des gens comme moi, d'autres secteurs d'activité, on échangeait un peu sur ces sujets-là, celui-ci, partage de la valeur en particulier. Puis, à un moment donné, on s'est dit, tiens, finalement, on a des initiatives les uns et les autres, de trucs qui fonctionnent pas si mal, et si on essayait finalement de partager un peu nos bonnes pratiques. Et puis, c'est un peu de là qu'est arrivé finalement ce collectif Mieux et qui a rayonné pas mal parce qu'il se trouve que dans mon bureau, il y a un marin qui s'appelle Arthur Levaillon, qui est marin, c'est son job, qui est très sensible sur les aspects environnementaux et puis qui nous a dit, avec les trois autres, voilà, au bout de deux ou trois bouteilles, je pense que c'était en fin d'apéro, j'aimerais faire la route du Rhum, traverser avec un très grand bateau et qui porterait les couleurs du collectif. Et voilà, et on s'est dit, bah, allez, on y va. Et donc, en fait, on a réussi très rapidement à collecter des fonds. Alors, pas beaucoup, mais quand même suffisamment. Et donc, en fait, ce très grand et beau bateau qui est arrivé sixième à la route du Rhum, en fait, a couru aux couleurs de Mieux. Donc, ça a été, voilà, au-delà de la mission, une belle histoire. Et on est en train, justement, de déployer. On est 20 cofondateurs, en fait, autour de Mieux. Donc, moi, patron de PME. Et là, on est en train de déployer, l'idée étant d'attirer plus de dirigeants pour pouvoir augmenter un peu notre impact, puisque l'idée, justement, via le partage de nos pratiques, c'est d'avoir un peu plus d'impact, faire un peu mieux chacun de notre côté, contribuer à ça. Mmh. Voilà l'idée du collectif.
Avez-vous déjà réfléchi à l'impact de l'IA générative dans le déploiement des solutions de relations clients ?
Alors oui, on en réfléchit, comme j'imagine tout le monde réfléchit à l'IA générative, ça c'est pas très original, et donc on y réfléchit à la fois en interne. La question c'est de savoir comment utiliser l'IA générative pour que nous, en tant que consultants, on soit plus efficace, qu'on lui fasse faire une partie de choses qu'on faisait avant. Donc ça, c'était un élément important. Et puis vis-à-vis de nos clients, dans cette approche sectorielle, c'est justement les aider, nous qui connaissons très bien la technologie, et puis avec pas mal d'investissements, notamment sur la veille, auprès de nos grands partenaires, qui sont notamment Microsoft et Salesforce, c'est de voir comment on peut les aider finalement à identifier un certain nombre d'usages spécifiques à leur métier par rapport aux industries dont on a parlé tout à l'heure, de façon à ce qu'ils sachent par quel bout s'y prendre. Parce que tout le monde veut y aller, la pression est forte. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'IA générative ? Non, c'est pas comme l'IA, ouais, il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a des vraies problématiques de change aussi, au sens d'adoption, au-delà des aspects techniques. Et donc, nous, notre approche, c'est vraiment d'arriver avec ce qu'on appelle des catalogues d'usage, en disant, voilà tout ce que tu peux faire dans ton industrie, et voilà en gros par quoi tu as intérêt à commencer. Puis après, l'idée, c'est de pouvoir avancer comme ça. Donc oui, on y travaille pas mal.
Yoann, vous aussi, une petite question pour notre invité.
Votre société a un peu moins de 10 ans d'existence, avec, on l'a vu, une croissance assez forte et marquée. Comment est-ce qu'on finance ce développement et quelle est la place pour un indépendant sur votre marché qui est quand même assez dominé par, vous l'avez dit, les Big Four ?
Donc c'est une question d'actualité, parce que j'ai dû faire quelques choix récemment, en tout cas me poser des bonnes questions, parce qu'effectivement c'est un marché qui est très concentré, il y a eu beaucoup d'acquisitions de mouvements, et à un moment donné la question c'était celle-ci justement. À 100 on est un peu visible, en plus comme on a plutôt une bonne croissance, qu'on est assez rentable, forcément tout ça, ça vaut un peu d'argent, donc à un moment donné... Moi, j'étais sollicité à la fois en direct ou alors par des banques d'affaires. Et puis, de chemin en aiguille, on en a parlé avec mes associés, mes anciens et mes nouveaux. Et puis, j'ai intégré un peu dans la réflexion ceux qui ne l'étaient pas encore. Et puis, finalement, on a choisi plutôt de se développer, de rester indépendant, en se disant, finalement, tous ceux de notre taille, voire les pupilles, se font racheter. Donc, une de nos singularités sera peut-être de rester des indépendants sur nos métiers. Et ce qui fait que, par exemple, je parlais de Salesforce tout à l'heure, on est les leaders aujourd'hui sur la partie banque-assurance, de la mise en place de cette solution-là. L'idée, c'est qu'on le reste. Et peut-être que demain, peut-être que c'est nous, je ne sais pas, qui rachèterons d'autres entreprises. Donc, en tout cas, c'est le choix qu'on a fait. Et on se restructure, du coup, cette année pour pouvoir notamment muscler un peu nos fonctions de support et pour pouvoir être à même avec ce système un peu de maison, comme ça qu'on les appelle, pourquoi pas d'accueillir la croissance. Mais en tout cas, on a bien envie de rester comme on est. Ça nous plaît bien. Voilà.
justement sur cette stratégie possible de croissance externe. Ce serait sur des tout en restant sur votre métier ou sur des métiers connexes?
J'en sais rien. En fait, j'en sais rien quand je vous dis ça. C'est que pour l'instant, je me mets cette idée en perspective parce que je me rends compte que finalement, il y a un certain nombre de chefs d'entreprise comme moi dans mon industrie qui viennent me voir pour me dire « Tiens, moi, je n'ai pas pensé avant. Maintenant, je pense que les gens, mes équipes, parce qu'en fait, quand on crée une entreprise, il n'y a pas qu'une question d'argent, il y a des gens qui vous suivent, ils seraient peut-être pas mal dans la tienne. » Bon, bah, moi, je dis, pour l'instant, ce n'est pas d'actualité, mais finalement, si on se structure un peu, pourquoi pas envisager à un moment donné d'en attirer. Mais en tout cas, je n'ai pas de cible en particulier sur le sujet.
Et enfin, un de vos axes de travail et de conseil est basé sur le partage de la valeur. Pensez-vous que la réglementation actuelle est adaptée au développement de cette pratique ou demeure aujourd'hui un frein ?
Non, je pense que les choses vont plutôt dans le bon sens. Ce qui est un peu compliqué, c'est de mettre en place justement de l'actionnariat salarié, typiquement à l'échelle d'une PME, parce que c'est un peu plus compliqué quand on est un grand groupe. Maintenant, c'est justement un peu l'idée par rapport à mieux. Une fois qu'on l'a fait, qu'on est bien accompagné, en fait, c'est des choses qui se font bien. Après, il faut accepter, je pense, en tant que dirigeant, un peu un niveau de transparence qui est important. Puisque ça veut dire qu'en fait, bah, vous vous retrouvez... Moi, cette année, j'ai eu ma première AG où en fait, j'avais 55 associés en face de moi. Alors que d'habitude, ça se passe autour d'une table, on boit des coups, puis à la fin, on signe les papiers, hein, comme on fait dans les AG avec les associés.
C'est différent.
Voilà, et puis quand on a une entreprise rentable, eh ben, on doit expliquer un peu les dividendes, tous ces trucs-là. Du coup, non, ça s'est bien passé. Si vous êtes bien accompagné, que vous le faites... de manière assez simple. Moi, je trouve que c'est plutôt bien et je n'ai pas vu de contraintes particulières pour faire ça.
Merci beaucoup, Christophe Amoureux, d'avoir répondu à nos nombreuses questions. Merci également à vous, Guillaume et Johan. C'est la fin de ce numéro de PME Radio. On se retrouve la semaine prochaine à 14h pour accueillir un nouvel invité.
L'invité de la semaine de PME Radio, une production b2b-radio.tv, en partenariat avec GFIP et Inextinso.